Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, bienvenue dans le paddock RMC, le podcast Formule 1 de la rédaction RMC Sport. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire oui, la promesse du paddock RMC, c'était de vous débriefer les week-ends de course. Tous les lundis, dès qu'il y avait une course, il n'y avait pas forcément de podcast prévu entre deux grands prix. Sauf que vous êtes nombreux déjà à nous avoir écoutés. Donc on s'est dit que la F1 était un sujet qui vous passionnait vraiment. Et puis vous êtes nombreux à nous avoir demandé plus de contenu. Du coup, on va vous proposer des petits épisodes magazine un peu plus régulièrement, comme c'est le cas de celui-ci. On va se pencher aujourd'hui sur la Silly Season. Il y a énormément de rumeurs sur le marché des transferts. 12 pilotes sont en fin de contrat. On ne sait même pas où va courir, dans quelle écurie va courir Max Verstappen la saison prochaine. C'est ultra excitant. Et je peux vous dire qu'on a tous un peu bossé le sujet. On a échangé avec des agents de pilotes. C'est une folie actuellement dans le paddock. Il y a plein de choses à dire. Les ingénieurs du paddock RMC aujourd'hui, on a laissé le boss de l'écurie, notre Fred Vasseur à nous, Jean-Luc Roy, au repos. Du coup, ils sont là pour prendre le relais. Alex Caldi, Julien Absalon et la première de Romain Leroutier qu'on a recruté. On allait le chercher chez un concurrent pour l'embarquer avec nous. Salut les gars.
Hola.
Salut à tous.
Bonjour.
N'oubliez pas, les amis, de nous noter sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vous le dis à chaque fois, vous allez me dire, ah oui, à Nicolas Paolorsi, il nous gave un petit peu avec ça, mais c'est super important pour que le podcast puisse continuer à exister, les 5 étoiles sur les plateformes. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans ce paddock RMC.
Le paddock RMC.
Hamilton, who will be a Ferrari driver from 2025.
Enchanté, mon ami.
Welcome, welcome.
Yes, we have it.
Leclerc! Leclerc! Charles Leclerc!
Ce qui est le patron?
C'est moi.
On dirait Donald Duck.
Please, guys. Do something, please. I cannot believe they do this to me. No, it's unacceptable.
Sergio Checo Perez!
Yeah, baby! I love you guys, you know that.
Yeah, we know that. We love you too as well, mate.
Yeah, yeah.
Guys, come on, why we don't stay on? Come on.
Daniel Ricciardo!
It's over. I think I have to stop.
Okay. Ça va être une intersaison de fou furieux et même une saison de fou furieux sur ce marché des transferts. Cette fameuse Silly Season, c'est comme ça qu'on appelle ça en Formule 1 puisqu'ils sont 12 pilotes en fin de contrat. Je vais vous les donner. Il y a les deux pilotes Alpine, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Fernando Alonso qu'on annonce un petit peu partout sur son Aston Martin qui est en fin de contrat. Carlos Sainz, bien évidemment, sur Ferrari. Les deux As, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, seront plus sous contrat en fin de saison. Sergio Perez avec Red Bull. Et d'ailleurs, on se demande où va pouvoir espérer courir, dans quelle écurie va pouvoir espérer courir Sergio Perez la saison prochaine. Valtteri Bottas joue le pilote Steck F1. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda et Logan Sargeant. Les gars, première question, Alex, et surtout c'est important de le dire, c'est que cette Silly Season, elle est quand même conditionnée à un seul homme, c'est Max Verstappen. On a l'impression que c'est lui qui peut tout déclencher. Sans une décision de Verstappen rapide, ça peut être encore figé quelques temps, cette affaire-là.
C'est lui la pièce maîtresse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est lui la pièce maîtresse. C'est lui qui décide un petit peu comment tout le monde va bouger et quelles décisions vont être prises. Au début, on pensait que ça pouvait être Lewis Hamilton qui était celui qui avait tout déclenché d'une certaine manière. En fait, finalement, non. Aujourd'hui, c'est Max Verstappen qui déclenche tout parce que ça offre une place, du moins par rapport à sa décision, ça peut offrir une place dans la meilleure écurie actuellement sur la grille de Formule 1, une place qui se libère de manière assez inespérée, un turnover même dans l'histoire de Red Bull et même aussi potentiellement dans l'histoire de la Formule 1, tellement Red Bull avait une assise avec sa domination sur la Formule 1. Là maintenant, il y a cette place qui peut se libérer. Où est-ce qu'il peut aller Max Verstappen maintenant? Il y a deux choix, bien évidemment, on va en parler. Il y a le choix potentiellement de Mercedes qui semble être le candidat naturel et celui qui est en outsider mais qui est clairement une force en présence pour avoir Max Verstappen par rapport à son projet, c'est bien évidemment Aston Martin. Donc il y a tellement de choses qui peuvent bouger au moment où on fait ce podcast, c'est une chose qui peut être dite par rapport à toutes les infos qu'il y a qui sortent, mais ça se trouve dans une semaine plein d'autres choses seront en train d'arriver, mais clairement Max Verstappen c'est la pièce maîtresse qui peut tout déclencher et mettre le bazar dans le paddock Formule 1.
Alors là c'est très vrai ce que tu dis Alex, je vais pas vous le cacher, je viens de raccrocher avant le podcast là avec un agent de coureur qui est actuellement titulaire dans une écurie de F1, il me disait ce qui est assez dingue en fait, le paddock est totalement en ébullition en ce moment et ça change mais d'heure en heure, les tractations entre les différentes écuries, il y a plein d'opportunités qui se créent, il y a plein de rumeurs également qui sont fondées, parfois infondées, et il me disait c'est assez fou, c'est quelque chose qu'on a quasiment jamais connu, et c'est pour ça qu'on se demande si d'ailleurs Julien, cette silly season c'est pas le marché des transferts le plus incroyable de l'histoire de la Formule 1, parce que bon, on parlait de le plus gros transfert de l'histoire, c'est Lewis Hamilton qui file chez Ferrari, et derrière tout ce que ça peut engendrer derrière, c'est point d'interrogation sur l'avenir de Verstappen. Ça fait énormément de choses qui font que on va peut-être assister au plus gros marché des transferts de l'histoire de la Formule 1.
Ouais, non mais c'est énorme parce que, enfin, faut quand même se rendre compte, c'est plus de la moitié de la grille qui est concernée. C'est des pilotes, la plupart en fait, on se dit, ils peuvent presque aller partout. Peut-être pas chez Red Bull, mais dans toutes les écuries de milieu de grille. Il y en a certains, on se demande, est-ce que c'est peut-être la retraite qui les attend, Bottas et Perez.
Ricardo.
Ricardo aussi, c'est vrai. Ricardo, ça pourrait même être fortement anticipé. C'est dire, d'ailleurs, justement, Ricardo, sa position fait que la silly season, effectivement, a commencé, mais le mercato peut vraiment être très actif dans quelques semaines, dans quelques jours, quoi. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que tout part quand même de Verstappen, alors que, enfin, il a quand même un contrat jusqu'en 2028, ce qui est quand même énorme. D'ailleurs, quand il avait signé, on s'était dit, ouais, c'est presque du jamais vu en Formule 1. Et donc, en fait, si on voit 2025, à 3 ans de la fin de son contrat, il serait capable de claquer la porte. Franchement, c'est du jamais vu. Et puis, comme l'a dit Alex, surtout pour libérer une place dans la meilleure écurie, la meilleure voiture. D'ailleurs, c'est peut-être deux places, hein, parce que peut-être que Perez, pareil, va sortir. C'est pas loin d'être du jamais vu, peut-être même du jamais vu, effectivement, ouais.
Bon les gars, je vais vous demander tout à l'heure un petit peu votre grille rêvée en 2025, parce qu'il y a tellement de mouvements qui sont attendus que on peut avoir peut-être un plateau rêvé pour 2025. Avant de te questionner Romain sur l'impact de cette silly season et surtout ce que ça va conditionner, parce qu'on sait qu'il va y avoir le nouveau règlement qui arrive en 2026, qui va être un vrai tournant dans l'ère moderne de la Formule 1. On va écouter Toto Wolff, le boss de chez Mercedes. Là, c'est même plus de la drague envers Max Verstappen. C'est que là, c'est des déclarations d'amour, j'ai l'impression, toutes les semaines, hein, de notre ami Toto envers Max. C'est que voilà, la porte, elle est même plus grande ouverte. C'est Max, on t'attend, quoi. Écoutez-le, c'était au micro de Sky Sport.
Si je pouvais savoir, Max est dans la voiture la plus rapide et c'est ce que recherchent tous les pilotes. Il est au top de sa forme dans sa carrière et cette décision lui revient. Savoir s'il est dans un bon environnement ou pas pour continuer ou partir. Et s'il souhaite partir, bien sûr qu'on souhaite qu'il vienne chez nous.
Ouais, voilà, bien sûr qu'on veut qu'il vienne chez nous. Bon, il continue Toto Wolff, hein. C'est appel du pied sur appel du pied, hein, Romain. Hein.
Bah écoute, Toto Wolff, il a raison de faire ça. C'est sa meilleure carte à jouer pour essayer de raccrocher un potentiel titre les années suivantes. Pour le moment, en fait, ce qu'on peut se demander, c'est que fait Christian Horner. On a l'impression qu'il veut tout. C'est garder Verstappen, mais d'un autre côté, prendre toutes les parts du côté de Red Bull, mais il peut pas tout avoir en même temps. Et pour l'instant, ça conditionne le fait que la saison prochaine, ça va être très intense du point de vue du mercato. Et il y a des places à prendre du côté de chez Red Bull et aussi maintenant Racing Bulls, parce que Ricciardo, maintenant, c'est compliqué déjà depuis le début de la saison. Il y en a qui ont fait des bons résultats l'année passée. On pense à Liam Lawson, qui a fait de très bons résultats. Je pense qu'il y a un petit Alexander Albon qui aimerait bien revenir aussi du côté de chez Red Bull pour montrer vraiment son plein potentiel qu'il a acquis, enfin l'expérience qu'il a acquise depuis son départ de l'écurie phare. Donc voilà ce que ça donne pour le moment.
De toute manière, il y a plein de baquets où on a des points d'interrogation et on va essayer de détailler derrière baquet par baquet ce qui peut se passer la semaine prochaine. Juste Alex, un peu les dernières infos fraîches, qu'est-ce qui se passe notamment dans cette affaire un petit peu Red Bull, où on a l'impression que maintenant Christian Horner n'a jamais été aussi fort et aussi conforté dans sa position que ce qu'il a pu être ces dernières semaines. Du coup, on se dit que si c'est le cas, peut-être que Verstappen n'a jamais été aussi proche d'un départ. Bref, où est-ce qu'on en est? Quels sont un peu les infos fraîches là du paddock?
Les dernières infos fraîches, c'est du moins que Christian Horner est conforté dans ses positions et qu'il devrait prendre, selon plusieurs médias, dont surtout un média allemand qui est toujours très sérieux par rapport à tout ça, qui est le média, je vais le dire en cours, c'est Amus, parce que sinon c'est Automundsport, voilà. En allemand, c'est un peu
c'est
plus
compliqué. C'est bien comme ça, c'est bien.
Voilà, le média Amus, qui révèle justement que Horner va être conforté dans ses positions et qu'il va même prendre de plus en plus de pouvoir dans l'univers Red Bull. Ça déplaît fortement, du coup, à la partie autrichienne qui est liée au clan Max Verstappen. Pourquoi, justement, il va prendre de plus en plus de pouvoir? Parce que Red Bull est détenu à 51% par des propriétaires thaïlandais qui, eux, soutiennent donc Christian Horner. Il y a une guerre, effectivement, en interne, et c'est qui crée effectivement un chaos en interne, entre donc le clan thaïlandais qui soutient Christian Horner face donc au clan autrichien qui détient 49% de l'univers Red Bull et qui est associé au clan Verstappen. Et comme, justement, avec toutes ces polémiques qu'il y a aujourd'hui autour de Christian Horner, des polémiques qui sont très graves, on le rappelle, pour accuser de comportement inapproprié, eh bien, Horner et le clan Verstappen ne veulent pas rester associés, du moins à Christian Horner. Il y a même une dernière info qui est même assez évocatrice de la situation. Par ce même média allemand, il révèle justement que le manager de Max Verstappen a rencontré du coup ses patrons thaïlandais, propriétaires majoritaires, je le rappelle, du côté de Red Bull après le Grand Prix d'Australie, pour indiquer que c'était clair, si Horner restait, Max Verstappen partait de Red Bull Racing. Et on le sait depuis le Grand Prix de Bahreïn, et justement par cette déclaration de Toto Wolff qu'on a pu entendre, que le clan Verstappen et Mercedes ont déjà bien bien discuté ensemble, et ça serait même le candidat naturel et même la destination naturelle de Max Verstappen. Mais j'insiste sur un point, attention à Aston Martin. Je reste persuadé que pour Max Verstappen, aller du côté de chez Aston Martin, c'est peut-être la meilleure option.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est quoi? C'est en termes de perf? Non, mais parce que les gars, moi je veux bien qu'on parle de Max Verstappen chez Mercedes, mais il y a quand même une donnée qui est assez importante, c'est que
la situation de l'écurie.
Bah oui, là en fait il est dans la meilleure voiture, tout simplement. Donc quel intérêt il a? Alors ok, ça se passe pas bien avec Horner et tout ça, mais moi je me mets à sa place. Le mec il continue de gagner, il va très probablement il se dirige vers un nouveau titre de champion du monde. Donc il continue de marquer l'histoire. Partir chez Mercedes, quand on voit les perfs des Mercedes actuellement, c'est quand même se mettre en danger. Et pour la suite de ta carrière, ça sera un vrai changement. Romain l'a dit, il a un contrat jusqu'en 2028. Donc moi, en fait, je comprends pas là quel est l'intérêt de Verstappen actuellement là, au moment où on enregistre ce podcast, pour partir chez Mercedes, Julien, tu vois.
Ouais, il y a une part de... Déjà, c'est de la politique, c'est de l'ego, cette histoire de, bah, comme on a dit, le clan thaïlandais qui a 51%, le clan autrichien qui a 49%. Verstappen qui arrête pas de... Il y a une forme de loyauté vis-à-vis d'Helmut Marko. On se demande, mais est-ce qu'il y a besoin de tant de loyauté? Parce que, bon, après
mais c'est
tout, ça
y est. Est-ce que le gars, il est prêt à mettre, quand même, sa carrière en jeu? Ça peut être le plus grand pilote de l'histoire en termes de palmarès, après, de l'histoire de la Formule 1, tu vois.
Il a peut-être des principes.
Pour toutes ces affaires-là.
C'est peut-être qu'il a des principes aussi, au-delà de ses principes personnels, parce qu'il a peut-être pas envie d'être associé à Horner pour diverses raisons, pas que pour la fameuse affaire. Il y a aussi peut-être une volonté de challenge, parce que souvent on a l'impression il adore la Formule 1, mais parfois il est là genre bon, moi il y a des trucs qui m'ennuient dans ce milieu. Alors peut-être que c'est une forme de challenge, de se dire bon bah voilà, j'ai gagné avec Red Bull là où tout a commencé, et maintenant j'ai envie de gagner avec une autre écurie, et s'il faut je le fais avec Mercedes, qui...
ouais.
Parce qu'au final on dit là, oui effectivement à l'heure actuelle Mercedes c'est pas bon. Mais il y a comme on a dit, il y a la nouvelle réglementation qui arrive bientôt, 2026. Bon, généralement, les cartes ne sont pas intégralement rebattues, mais quand même, il peut y avoir un vrai changement de hiérarchie. Et surtout, bah, Verstappen, comme il est tellement fort, eh bah, peut-être qu'il peut entraîner comment dire, toute une écurie derrière lui pour tirer le meilleur d'une voiture qui n'est pas... qui est peut-être pas la meilleure, mais mine de rien, avant de gagner ses titres de champion du monde, Verstappen, il arrivait à faire des résultats sympas avec une Red Bull qui était ok, mais c'était pas la number one.
Troisième force du plateau à l'époque.
Voilà, c'est ouais. ça. Alors ouais. que Hamilton écrasait tout avec sa Mercedes, quoi.
Mais Nico, si je peux me permettre, quand même, le palmarès de Verstappen pour l'instant chez Red Bull, c'est 3 titres. La première saison. Bon, on va dire que ça s'est fini un peu bizarre la fin de saison, surtout la dernière course. Donc, il y a eu battle avec Lewis Hamilton. La deuxième saison et la troisième saison, en fait, bah, il n'y a eu aucune concurrence. Et là, ça serait, si on prend le cas Verstappen, si on se met à sa place, est-ce que ça ne serait pas le moment de se dire, j'ai la meilleure voiture, certes, mais est-ce que je n'irai pas chercher le défi ? Est-ce que je ne me mettrai pas dans une voiture qui est un peu moins performante et là je montre que c'est peut-être, vraiment moi le peut-être. Pilote qui
non,
fait
mais
toute la différence.
J'entends ce que vous dites, mais je me dis quand même, on est quand même sur des mecs qui sont assoiffés de victoire, qui sont des super champions et qui, en termes d'ego, quand même, moi que tu te mettes en danger en fin de carrière, tu vois ce que fait Lewis Hamilton, je l'entends très bien. Le mec n'a plus rien à prouver, il est septuple champion du monde, il va partir chez Ferrari. Si jamais il va gagner un truc chez Ferrari, l'histoire elle est incroyable et c'est terminé, il a plié le game en Formule 1. On va pas se mentir, mais je me dis que Verstappen c'est peut-être un peu tôt quand t'es sur une machine qui est aussi dominante. Voilà,
c'est peut-être un peu tôt, mais il y a peut-être le sentiment qu'il sent qu'il y a le vent qui tourne du côté de chez Red Bull, pas seulement d'une manière de l'organigramme, pas seulement aussi d'une manière vis-à-vis de Horner qui prend plus de pouvoir et ça déplaît fortement donc au clan autrichien et donc qui est lié au clan Verstappen, mais il y a peut-être aussi il sent justement que le vent tourne d'une manière technique. Quand on voit ce qui se passe avec Christian Horner, où il y a plein d'éléments de têtes pensantes qui sont en train de se dire bon, on va peut-être quitter Red Bull d'une certaine manière, et on le voit justement puisqu'il y a l'ingénieur qui est historique justement presque après 18 ans au sein de l'écurie, il y a l'ex-mécanicien donc aujourd'hui de Max Verstappen qui quitte Red Bull après 18 ans. Coïncidence, ça arrive au moment de l'affaire Horner, donc un peu une situation de chaos interne. Autre point aussi, il y a eu des rumeurs, presque même des informations, comme quoi le futur moteur 2026 de Red Bull, qui est donc Red Bull associé à Ford, qui n'est pas dans des bonnes avancées en termes de développement. Donc déjà, de ce principe-là, tu es le clan Verstappen, tu as envie de gagner, Verstappen le dit ouvertement, ça ne t'évoque pas des bonnes situations pour justement aborder la nouvelle réglementation. Autre point aussi, quand Max Verstappen signe son contrat qu'il début 2022 pour le Lyon avec Red Bull jusqu'en 2028, Horner lui promet Porsche. Pas justement, et derrière le futur le partenariat qui devait avoir lieu pour 2026 entre Red Bull et Porsche est devenu caduc puisqu'il a été arrêté, puisqu'il n'y a pas eu d'entente pour justement avoir cette association-là. Et qu'est-ce qu'on on se retrouve avec quoi du côté de chez Red Bull ? Ford, avec tout le respect que j'ai pour Ford en Formule 1, il y a eu à l'époque Stewart Grand Prix pour les plus anciens, bien évidemment, mais ça n'a pas été une grande réussite, une franche réussite, l'association de Ford, effectivement, en Formule 1. Là, aujourd'hui, bah, il n'y a pas des bonnes avancées, semblerait-il. Il y a peut-être ce sentiment du côté de chez Verstappen qu'on n'est peut-être pas sur des bonnes dispositions pour aborder la réglementation. Mercedes, j'émets aussi beaucoup de doutes par rapport à ce qui s'est passé depuis 2-3 saisons, depuis 2022 du moins, pour le rebond par rapport à la nouvelle réglementation. Est-ce qu'ils se concentrent sur la réglementation et peuvent donner des garanties à Max Verstappen ? Là est une toute autre question. Pareil pour Aston Martin. Est-ce qu'ils peuvent permettre à Max Verstappen d'avoir une équipe autour de lui et construire un vrai projet ? Puisqu'on rappelle aussi qu'Aston Martin, en 2026, ils auront aussi un partenariat exclusif avec Honda. Donc ce serait une vraie écurie de Formule 1 et surtout écurie constructeur en Formule 1, associant donc Aston Martin et Honda. Donc il y a le sentiment peut-être que Verstappen sent réellement, ou du moins le clan Verstappen sent réellement le vent tourner d'une manière interne par rapport à l'organigramme, sur le plan technique et sur la vision aussi de la performance, où la performance peut être désormais, prochainement du moins dès 2026, du côté de chez Mercedes ou Aston Martin.
Je crois que c'est Julien qui parlait tout à l'heure de cette loyauté un peu de Verstappen envers Red Bull. On va l'écouter à ce sujet parce qu'il en a parlé, Max Verstappen.
Vous savez, Helmut et moi, nous avons beaucoup de respect mutuel. Ma loyauté pour Red Bull est la même pour lui. Depuis le décès de Dietrich, nous avons réussi à garder cette clé qui nous a permis de continuer à travailler en équipe et gagner. Et pour moi, Helmut est la clé de tout ça et c'est aussi pour cela que je reste ici.
Bon voilà, il se cache pas, hein, il conditionne son avenir à Helmut.
Et d'ailleurs, au final, c'est peut-être aussi par rapport aux autres champions qu'on a pu connaître, surtout récemment, en fait, juste, peut-être qu'il pense différemment en fait, des autres. C'est-à-dire que lui, il a souvent dit « Moi, je ne me vois pas rester jusqu'à je ne sais pas quel âge faire le vétéran en Formule 1. » Alors qu'on voit qu'Alonso et Hamilton, eux, c'est tout ce qu'ils veulent. Quoi. S'ils pouvaient piloter jusqu'à 50 ans, ils signeraient peut-être tout de suite. Enfin, en tout cas, Alonso, ouais, ça j'ai l'impression.
Ça évoluera
quoi.
Peut-être, ça. Oui, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est pour ça, c'est peut-être un des gros points d'interrogation dans toute cette histoire. C'est qu'en fait, il faut rentrer dans la tête de Max Verstappen. Non pas pour dire que ouais, c'est un génie à part, mais quand même, il ne pense pas exactement comme les autres. Et cette loyauté, finalement, ouais. c'est peut-être ça qui change le truc. Parce qu'effectivement, d'habitude... Bah, on l'a vu par exemple avec Vettel ou quoi, c'est-à-dire que les mecs vont les grands champions vont gagner et puis bon ils vont peut-être faire une saison sans gagner dans leur écurie et c'est à partir de là il y a une réflexion qui se pose de ah peut-être qu'il faut que je parte, faut que je change, mais là peut-être que lui il va l'anticiper en gagnant, il va direct changer, donc c'est juste peut-être une autre manière de réfléchir et c'est ça qui va tout changer.
Non mais quand on vous dit que Max Verstappen c'est la clé de cette silly season, on vous ment pas, on vient de faire 20 minutes de podcast en débattant dans tous les sens, en supputant, ça va être incroyable quand même. Et tu l'as dit Julien, essayer de rentrer un petit peu dans sa tête, de comprendre ce que peut penser Verstappen, c'est assez passionnant. Il y a quand même aussi une autre interrogation, on en parlait tout à l'heure dans cette écurie Red Bull, Romain en parlait, c'est ce deuxième baquet, Sergio Perez. Voilà, on va commencer à plonger un petit peu dans le détail de la grille 2025 avec vous les gars. Je vous demanderai tout à l'heure, on se fera un récap de vos grilles un petit peu favorites, fétiches pour l'année 2025. Sergio Perez qui, on le dit sportivement, même si ça fait le job, quand Verstappen a abandonné lors de la dernière course, il n'a pas su hausser son niveau et il n'a pas fait plus haut que la cinquième place. Mais il est soutenu par une énorme fortune mexicaine. Est-ce qu'il a encore un avenir en Formule 1, ce Sergio Perez, Romain ?
Ça va être compliqué. Enfin, en fait... Ça va dépendre de sa saison. S'il arrive à finir deuxième au classement des pilotes, pourquoi pas? Mais il n'est pas forcément très bien aimé de la part d'Helmut Marko, sachant que Helmut préfère largement Daniel Ricciardo. Mais bon, Daniel Ricciardo, c'est vrai que c'est encore plus compliqué pour lui parce que les résultats ne sont pas là. Et en plus, l'année dernière, quand il s'est blessé, Liam Lawson a fait des meilleurs résultats que lui et que... Ça pousse derrière, il n'y a pas que lui, il y a aussi des petits gars de F2 comme Isaac Hadjar, même si il entame sa saison en F2, il promet déjà et il risque d'être là pour peut-être la nouvelle réglementation de 2026. Donc Perez, ça risque d'être compliqué. Est-ce que lui a encore envie aussi de vivre sous cette pression Verstappen et cette pression Red Bull ? Après, est-ce que si Verstappen part, est-ce qu'il va vouloir rester ? Est-ce qu'il saura, s'il reste, prendre le leadership de l'écurie ? Personnellement, j'en suis pas si sûr. Après, à voir ce que ça peut donner et qui pourrait prendre la place de Verstappen aussi du côté du clan Red Bull.
Checo, il bénéficie quand même du soutien de Carlos Slim, hein, qui est une des plus grosses fortunes mondiales. Ça, en Formule 1, ça aide les gars, hein, Alex.
Ça aide énormément, hein, Carlos Slim, qui, comme tu l'as dit, est une des plus grosses fortunes. Il y a aussi le fait que c'est un pilote qui, marketingement parlant, est un pilote qui est très attrayant pour une marque. Et c'est extrêmement important, forcément, pour les écuries de Formule 1, qui sont des grands Pablo publicitaires, on va pas se le cacher, surtout au niveau de leur voiture et au niveau de la manière de communiquer. Et pour Sergio Perez, Red Bull l'a pris parce que, oui, c'était le pilote à prendre au moment, à ce moment bien précis, c'était entre la saison 2020 et 2021. Mais aussi parce que mexicain, c'est une grosse force marketing et commerciale pour Red Bull, pour asseoir effectivement leur puissance marketing du côté de l'Amérique du Sud, mais également aussi de surtout bien sûr d'Amérique centrale par rapport au Mexique. Et donc en fait de ce fait là, Red Bull avait de quoi bien jouer avec Sergio Perez du point de vue de la piste, mais également du point de vue marketing. Sauf que maintenant, ouais, on a une situation où Perez, l'année dernière, il a beaucoup, beaucoup inquiété. Et là, cette année aussi, bon, c'est terminé deux fois deuxième, d'accord. Mais il y a ce Grand Prix d'Australie qui n'est pas si
ouais,
bon
Melbourne,
que ça.
Melbourne,
ça fait extrêmement tâche. Donc, Perez, du moins, fait partie des pilotes qui sont très, très en danger parce que, du moins, j'ai envie de dire, pour rester du côté de chez Red Bull, Bull, je pense que ça sera sa dernière saison cette année. On passera aussi du fait que depuis le début de l'affaire Horner, il y a tout le monde qui s'exprimait sauf Sergio Pérez en mode bon, moins j'en dis, moins on me voit, moins je risque ma place. mais ouais, du côté de chez Red Bull, du moins, moi je ne pense pas qu'il terminera terminera cette saison, et après l'année prochaine, ce sera compliqué de rester du côté de chez Red Bull. Par contre, pour trouver un autre baquet en Formule 1, moi je vais un peu aller plus vite par rapport à ça, mais c'est vrai que moi je l'ai pas mis dans ma grille, en tout cas du moins pour l'année prochaine.
Mais c'est dur de le placer, mais par contre
très dur de le placer,
c'est un pilote expérimenté quand même, et mine de rien c'est expérimenté qui arrive encore. C'est vrai qu'on le critique beaucoup, il est d'ailleurs critiqué aussi par Red Bull.
Attends, j'ai donné son palmarès, vas-y Julien, mais je vais chercher ça en même temps, mais c'est quand même un mec qui a fait des choses,
qui arrive quand même à être rapide en qualif. Alors il a été moins dernièrement, c'est vrai, mais quand même il a déjà montré,
il s'est beaucoup amélioré en qualification. C'est pas un pilote de qualification, c'est un pilote de course, c'est un pilote qui est capable de faire le giga plus avec le giga moins en termes de consommation et de dégradation en termes de pneumatique. C'est un pilote qui est extrêmement fort, mais il y a toujours des défaillances.
C'est 6 victoires.
C'est
6 victoires en 260 courses. L'année dernière, notamment, il fait 9 podiums, 2 pôles. Et il signe 2 victoires.
Ah, mais c'est très correct, c'est même bien. Faut pas oublier ce qu'il a pu faire chez Force India, alors qu'à l'époque c'était pas forcément une top team. Enfin, ça l'a jamais été, mais parfois c'était vraiment une voiture compliquée. Et dans tous les pilotes en fin de contrat, lui au moins il peut dire déjà je peux apporter de l'argent, ce qui est quand même pas mal. J'ai de l'expérience et puis j'ai prouvé que je savais me débrouiller avec des voitures pas incroyable, quoi. En plus, pour sa défense aussi, il ne faut pas oublier que la Red Bull, elle est quand même particulière. Donc, toujours designée pour Verstappen. Alors, ça n'excuse pas tout, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a des directeurs d'écurie qui seraient quand même très intéressés. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va chercher un Perez en se disant ça va faire un peu comme Bottas, qui du coup, là, est sur la fin? Ou est-ce qu'on va chercher un jeune? C'est toute la réflexion d'une écurie aujourd'hui, en tout cas si le CV de Perez vient sur la table, quoi.
Mais ça, c'est une vraie question, les gars. Franchement, là, actuellement, pour une écurie de F1 en 2024, qu'est-ce qui est le plus attractif? Aller chercher un mec qui a de l'expérience, qui a une résonance médiatique, qui a quand même un peu roulé sa bosse, ou aller chercher un petit jeune qui cartonne, qui peut être attractif sur les réseaux? Moi, franchement, je me pose vraiment la question. En termes de stratégie, franchement, les deux visions s'entendent.
Il n'y a pas un milliard de jeunes qui cartonnent malgré tout. Mine de rien, c'est parce que souvent on se dit il y a eu les Leclerc.
Il y avait Nissani qui cartonnait, mais pas pour les bonnes manières.
Donc après, c'est un peu le problème aussi. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que des pépites.
Il n'y a pas que des cracks.
Enfin, après, Sergio Pérez, je préfère l'avoir qu'avoir un Lance Stroll ou avoir un Sergent.
Par exemple,
c'est un mec fiable. C'est un mec ultra fiable.
Fiable et quand même qui a apporté des gros résultats. Faut pas oublier que si Verstappen en 2021 arrive à rattraper Lewis Hamilton sur le dernier circuit, c'est parce que Sergio Pérez est là pour freiner Hamilton, alors que Hamilton lui a mis 15 secondes sur le premier relais et 10 secondes après, quoi.
C'est vrai que s'il ne fait pas ce travail-là, Sergio Pérez, au moment où il fait le ministre de la Défense, Hamilton aurait eu le temps de s'arrêter au stand pour justement aller derrière le dépasser. Mais pour rebondir à ce que tu dis, Nico, c'est vrai que Sergio Pérez, par exemple, du côté de chez Haas, ce serait parfait pour lui parce que Haas a besoin d'argent. Je pense que l'année prochaine, ils mettront aussi un autre jeune pilote et on va effectivement...
C'est là où je l'ai mis.
Parce que finalement, en y réfléchissant, ce serait peut-être la destination parfaite pour Sergio Pérez au cas effectivement où il serait non pas limogé, très loin de là, mais où ce contrat ne serait pas renouvelé du côté de chez Red Bull.
Bon, on va se plonger, les gars, aussi sur l'autre baquet que tout le monde convoite. C'est bien évidemment le volant de Lewis Hamilton qui part chez Ferrari, qui, avec George Russell, dans une Mercedes la saison prochaine. Bon, bien sûr, on l'a dit, c'est conditionné à Verstappen, mais on va se mettre dans l'optique où Verstappen décline un petit peu cette proposition-là. Qu'est-ce qu'on fait côté Mercedes, Romain, qui on peut aller chercher? Est-ce que déjà nos Frenchies, là, Esteban Ocon, Pierre Gasly, c'est un volant qu'ils peuvent convoiter? Est-ce qu'il y a des jeunes derrière? Qui on voit dans le baquet Mercedes?
Moi, c'est ce à quoi je pensais. Je pense qu'il faut être un peu chauvin. Un petit Français chez Mercedes, ça pourrait être pas mal.
Ouais, mais il faut être lucide aussi. Est-ce que vraiment ils sont assez attractifs pour le faire, tu vois? Est-ce que ça peut plaire à Toto Wolff?
D'un côté, il y a Esteban Ocon qui a fait toutes ses classes aux côtés de Max Verstappen et qui se bataillait avec lui dans les catégories jeunes et qui malheureusement n'a pas eu le même succès dans les écuries qu'il a eu au fur et à mesure de sa carrière. Mais un Esteban Ocon a le profil, du moins si on peut comparer, pas forcément à Verstappen, mais on compare par exemple à George Russell, je ne vois pas ce qu'a George Russell de plus par rapport à un Esteban Ocon ou à Pierre Gasly. Je ne vois pas du tout. Et après, d'un autre côté, est-ce que pour Mercedes, est-ce que comme Russell est là et que depuis le début de la saison, pour l'instant, il est meilleur que Lewis Hamilton, du moins il arrive à faire de meilleurs résultats et qu'il prend un peu le leadership, pourquoi pas tester un petit rookie, un petit jeune, pourquoi pas un petit Antonelli qui est plutôt pas mal et qui on fait que d'entendre du bien au fur et à mesure que les semaines passent.
Ouais, va falloir que vous me parliez de ce pilote, les gars, parce que je l'ai vu sur vos grilles tout à l'heure. Alors, bon, vous savez, je regarde pas toutes les courses automobiles, donc vous allez me parler un petit peu de ce gars-là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien, Alex, là, de ce baquet Mercedes? Qu'est-ce que va faire Toto Wolff? Et voilà.
Les Français, j'y crois absolument pas. Hein.
Ouais.
Non, c'est. En fait, je me dis, le train va pas passer. En fait, il aurait pu passer avant pour Ocon, et il n'est jamais passé, et là, sauf pour être pilote de réserve.
Moi, je me dis avec la dynamique alpine actuelle, là, t'es quand même en termes d'image. Alors, même si on va me dire, oui, ça ne conditionne pas quand même ce que la valeur pilote,
non, mais quand même.
Ocon. Mais quand même, c'est quand même mieux quand tu te bats pour le top 5 tous les week-ends plutôt que quand tu fais P17. Quoi.
Non, parce que quand effectivement tu es dans des écuries un peu moisies, en tout cas sur le niveau de la grille, on peut dire bon, ok, quand c'est un jeune, bon, de toute façon il fait ce qu'il peut et justement on va voir comment il fonctionne. Mais là, la dynamique pour les deux Français, elle est pas bonne. En tout cas pour Ocon, moi j'y crois pas du tout. Pour le coup, moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur le côté Russell signe égal Ocon. Je trouve Russell nettement supérieur. Non, mais par contre, pour aller avec Russell, si c'est pas Verstappen, il y a quand même Albon. La possibilité Albon.
Ça, alors, c'est la grosse cote. Hein.
Le problème pour Albon, c'est que il n'est pas en fin de contrat, lui. Mais il est chez Williams. Williams, écurie ami. Et puis après, il y a aussi la possibilité de pourquoi pas faire Carlos Sainz pour un an.
Mais alors voilà.
Mais avec un plan déjà anticipé. Un an pour ensuite peut-être laisser la place au jeune Antonelli.
Moi, on en parlait, Alex, dans le dernier paddock RMC. Je trouve que Carlos Sainz, c'est le mec sous-côté. En fait, ouais. Tu vois, là, depuis, on n'a pas. C'est la première fois qu'on prononce son nom depuis le début du podcast. Alors que le mec, il vient de gagner à Melbourne. Il est quand même sur Ferrari. Il a fait des bonnes choses avec McLaren. Il a toujours répondu présent. Il s'est toujours battu pour avoir un volant, pour avoir un baquet. À chaque fois, ça a été le mec à qui on a dit ouais, Carlos, t'as peut-être pas le niveau, va voir ailleurs. Et au final, le mec, il est là. Moi, je trouve que c'est un mec ultra fiable, c'est un mec sympa, c'est un mec qui, en termes d'image, plutôt BG en plus, et c'est vrai que ça compte en Formule 1. Non, mais ce côté un peu marketing qu'il peut y avoir derrière les pilotes, on va pas se mentir, les gars, ça compte aussi. Voilà. Et moi, à la place d'un patron d'écurie actuel, tu peux pas renier Carlos Sainz comme ça, quoi.
Bah, c'est pour ça que le papa, Carlos Sainz, senior, est allé discuter avec tous les patrons d'écurie et également, du coup, avec Toto Wolff. Et oui, forcément, Carlos Sainz est sur les tablettes de Mercedes. Et puis, d'ailleurs, Toto Wolff l'a révélé, hein, il a donné une shortlist de 4 pilotes. Hein, dedans, Max Verstappen, qui est le choix numéro 1 et qui va donc... c'est lui qui va un peu, qui est, comme on l'a dit, la pièce maîtresse du marché des transferts et donc du côté de chez Mercedes. Et si Verstappen ne veut donc pas aller du côté de chez Mercedes, eh bien, Toto Wolff a dit, dans ma liste, du coup, il y a ce qu'il a donné, du moins dans cette liste, il y a Fernando Alonso et il y a donc Carlos Sainz et donc Andrea Kimi Antonelli.
Et donc pas Ocon.
Et ça m'a beaucoup, beaucoup étonné. C'est vrai que Carlos Sainz, pour rester sur lui, c'est quelqu'un qui est sous-coté, comme tu l'as dit. L'an dernier, forcément, par rapport à tous les déboires qu'il y a eu au sein même de la Scuderia Ferrari, je pense qu'il en a empathie réellement par rapport à sa réputation et par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, comme quoi il poussait pour avoir un nouveau contrat, alors que justement, du côté de chez Ferrari, on voulait jouer la montre et attendre la fin de saison. Lui, il voulait effectivement avoir cette opportunité de savoir où est-ce qu'il roulera l'année suivante, pour pas justement faire cette saison 2024 sans savoir où est-ce qu'il allait rouler l'année suivante. Finalement, on en est dans cette situation là pour Carlos Sainz. Mais pour Mercedes, ce serait une bonne opportunité réellement d'avoir un Carlos Sainz qui est un pilote d'expérience, qui est un pilote extrêmement talentueux. À chaque fois où Carlos Sainz est passé dans une écurie, cette écurie a progressé. Que ce soit Toro Rosso, que ce soit Renault, que ce soit McLaren en particulier, parce que Carlos Sainz a été le grand artisan du retour de McLaren au premier plan. C'est lui qui a ramené McLaren sur le devant de la scène, notamment au niveau des podiums. Je me souviens du podium de Gasly, c'était en 2019. Carlos Sainz, sur la photo, il n'était pas dessus, mais finalement, il était monté derrière après la pénalité de Lewis Hamilton. Et c'est lui qui a été en bataille pour la victoire contre Pierre Gasly, c'était en 2020 du côté de l'Italie. C'est lui avec Lando Norris, mais c'est lui qui a été réellement le grand artisan du retour de McLaren. Et c'est pour ça qu'il a signé du côté de chez Ferrari, parce que Ferrari a vu ça en Carlos Sainz. Et aujourd'hui, il y a eu l'opportunité de Lewis Hamilton et Ferrari ne pouvait pas faire autrement réellement. Et c'était pas contre Carlos Sainz. Là aujourd'hui, Carlos Sainz est libre. Pour Mercedes, ce serait une excellente opportunité d'avoir un pilote d'expérience, pas non plus du niveau d'âge forcément de Lewis Hamilton ou même de Fernando Alonso. Alonso, c'est 42 ans. Je vois pas réellement ce que veut faire réellement Mercedes s'ils veulent effectivement prendre Fernando Alonso. Mais Carlos Sainz, ce serait presque le candidat idéal, du moins pour Mercedes, par rapport à son âge, par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il peut apporter pour une écurie, et surtout aussi au niveau de la direction technique, dans la manière où il a réussi à comme je l'ai dit, grandement remettre dans une bonne direction technique, que ce soit McLaren, Renault, et également forcément aussi à Skoda Ferrari.
Tu m'as convaincu, mon Alex, je vote Carlos. Déjà, moi, je l'aime bien, mais alors là, je vote Carlos.
J'aurais juste rajouté quelque chose sur Esteban Ocon. C'est vrai que je suis surpris que Toto Wolff n'ait pas mis Esteban Ocon dans cette liste.
Alors que c'est son protégé, quoi.
Ça a été exactement l'un de ses protégés. Il est aujourd'hui, encore une fois, Esteban Ocon, d'une certaine manière, toujours sous contrat avec Mercedes par rapport à son management qui est lié à Mercedes. Quand, justement, j'avais eu l'occasion de le rencontrer au début de la saison à Enstone lors du reveal de l'A524, la terrible A524. Il évoquait justement cet aspect de « je suis toujours lié à Mercedes ». Il a ouvertement dit, ce qui forcément envoyait un message à Mercedes, bien évidemment, pour dire « moi je suis là, moi je suis prêt ». En même temps qu'on est du côté de chez Alpine, on est prêt à toutes les opportunités presque au vu de la situation. Mais c'était pour réellement faire comprendre « si Mercedes a besoin de moi, je suis disponible ». Et là, le fait qu'aujourd'hui, que Toto Wolff dise finalement « bon, aujourd'hui, il y a Max Verstappen avant tout, mais derrière, il y a Carlos Sainz, il y a également Fernando Alonso ou Kimi Andrea Antonelli ».
Après, est-ce que c'est pas un peu de com' aussi, Alex ? Est-ce que Toto Wolff, il dit tout, tu vois ? Je sais pas.
Je pense que ça se jouera entre ces quatre pilotes. Pour le coup, Toto Wolff, c'est vrai qu'il peut y avoir de la langue de bois comme tout autre patron d'écurie, bien évidemment. Mais je suis très déçu pour Esteban Ocon, très sincèrement, que Toto Wolff ne l'ait pas cité. Parce que c'est un pilote qui est extrêmement talentueux. Si Alpine en est là, ou du moins si Alpine ne tombe pas en ruine d'une certaine manière sur la piste, c'est grâce à Esteban Ocon. Esteban Ocon a montré qu'il avait l'âme d'un leader d'écurie. Esteban Ocon a montré qu'il pouvait performer peu importe la voiture qu'il avait. On rappelle que lorsqu'il est du côté de chez Racing Point, Force India à l'époque, il avait tenu tête réellement à Sergio Perez et il avait perdu son baquet pour des questions monétaires comme il peut y avoir grandement dans le sport automobile, pas seulement en Formule 1.
Il s'était même envenimé avec Max Verstappen.
Exactement, aussi également. Donc, je trouve que tu peux être pilote sous-côté par rapport à Carlos Sainz. Et Esteban Ocon, ça l'est clairement. Et je pense que c'est le pilote le plus sous-côté de cette grille de Formule 1. Et qu'il en pâtit un peu de ce pilote qui a parfois été un peu mal aimé par le public, même français, d'une certaine manière. Il y a beaucoup qui l'ont préféré à Pierre Gasly. Aujourd'hui, Esteban Ocon, par rapport à son niveau, par rapport à son expérience, parce que reste à Enstone autant de temps. Le dernier qui avait fait ça, je crois que c'était Michael Schumacher, hein, rappelons-le quand même, pas du côté de chez Benetton. Faut quand même mettre en valeur vraiment le boulot de Esteban Ocon. Et oui, il mérite clairement le baquet du côté de chez Mercedes. Ça me déçoit un peu qu'il ne soit pas du moins dit par, ou du moins mis en avant par Toto Wolff.
Et puis contrairement à Pierre Gasly, Pierre Gasly, lui, a eu la chance de pouvoir faire ses preuves chez Red Bull. Ce que Ocon n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu la chance d'aller dans une grande écurie pour montrer ce qu'il vaut. Alors, il a fait des résultats avec Racing Point, mais c'était pas à l'époque la grande écurie sur le paddock. Et d'un autre côté, pour revenir à Sainz, même si c'est pour un an chez Mercedes, sur cette année-là, tu as le temps quand même de former à Antonelli chez Williams à la place de Sargeant. Et à la fin de cette année, pour la nouvelle réglementation, tu mets Antonelli chez Mercedes à la place de Sainz, vu que Sainz, peut-être qu'il va suivre du côté de chez Audi, et garder George Russell à côté, qui a appris un peu plus de leadership dans l'écurie.
Et oui, c'est ça, les gars, parce qu'il y a aussi Audi qui arrive, hein, comme force en présence, et qui va faire. Ça, faut que vous me l'expliquiez aussi.
En fait, c'est un des problèmes de quand on parle de. Du coup, par exemple, on parle de Mercedes, et en fait, c'est pour ça que cette season, elle est incroyable, parce que c'est vraiment un jeu de chaise musicale. Si on parle de Carlos Sainz éventuellement chez Mercedes, en fait, il y a point d'interrogation sur est-ce que Kimi Antonelli a vraiment le niveau ? Est-ce qu'il sera vraiment performant, ne serait-ce qu'au bout d'une saison, si on le met ailleurs chez Williams, par exemple ? Et puis, est-ce que. Alors que, et puis il y a Carlos Sainz qui, lui, a manifestement a des touches chez Audi, notamment via son père, etc. Est-ce que ça l'intéresserait de faire une seule année chez Mercedes, alors que sans doute qu'il pourrait se retrouver chez aujourd'hui Kick Sauber, bon, avec une voiture un peu pourrie, a priori, et pour ensuite basculer, donc Kick Sauber qui va devenir Audi, pour basculer chez Audi avec sans doute un contrat en fait pluriannuel. Donc au moins, il sait que son avenir, il est assuré et peut-être avec des moyens intéressants. Vu qu'Audi a de grandes ambitions.
Ouais, ça va être intéressant ça, hein, de voir ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est un vrai choix. Après, je me mets à la place de Sainz aussi. T'as peut-être envie de. Bon, c'est dur quand tu passes d'une Ferrari à une Sauber. Ouais. T'as peut-être envie quand même de te faire une petite année intermédiaire chez Mercedes, tu vois, histoire de voir si tu peux encore matcher, si tu peux gagner des courses. Je me dis que quand t'es un compétiteur, quand même, ça peut compter.
Et puis c'est surtout que Alex le disait la semaine dernière sur le dernier podcast, c'est que. Pour une fois, Sainz aurait la chance de montrer et de dire où est-ce qu'il veut et de pas subir.
Ouais, c'est ça, de pas subir un petit peu. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Les gars, parlez-moi un petit peu de cet Antonelli là, dont on parle beaucoup, Alex, depuis le début du podcast. Oui. Présente-le. Alors déjà, je tiens à dire aux auditeurs, auditrices du paddock RMC qu'on va se faire un podcast sur un petit peu les jeunes pilotes qui cartonnent tout dans les catégories inférieures, qui sont de vrais prospects pour la Formule 1. Mais du coup, parle-nous de ce jeune là. Vous m'en parlez depuis le début du podcast. Je sais pas si tout le monde le connaît, qui c'est, d'où il sort et pourquoi vous me parlez de lui en fait, tout simplement.
Ah, on parlait de talent générationnel par rapport à Oliver Bormann. Réellement, Kimi Andrea Antonelli, c'est un talent générationnel, un crack absolu du giron Mercedes qui a réussi à récupérer quand même Toto Wolff. Hein. On rappelle que Toto Wolff avait
il a 17 ans, c'est ça,
Alex ? Il a 17 ans à l'heure actuelle. Et on rappelle justement que Toto Wolff avait manqué Max Verstappen avant même qu'il signe du côté de chez Red Bull. Mais comme il n'avait pas pu donner justement une opportunité à Max Verstappen de venir en Formule 1, de signer en Formule 1, eh bien Verstappen avait signé du côté de chez Red Bull. Là, il ne veut pas manquer cette occasion justement à Toto Wolff avec Antonelli, jeune pilote de 17 ans, italien, vainqueur de la F4 italienne, de la DAC F4, donc c'est la F4 allemande, et aussi champion de Freca, aussi également l'an dernier. Et même pour dire à quel point il a été, il fait des choix forts, lui et son management, et Mercedes. C'est que normalement et généralement, quand vous êtes un jeune pilote, vous montez les étapes assez régulièrement. Ça veut dire que vous faites des formules de promotion, puis ensuite vous allez en F3, FIA F3, donc c'est le championnat de support qu'il y a, de formules de promotion qu'il y a sur les Grands Prix de Formule 1, et ensuite vous montez en F2. En Freca, donc le championnat régional européen qu'il y a justement, c'est avec des F3. Et bien en fait, justement, Antonelli a choisi de passer de la Freca à directement la F2. Donc il est aujourd'hui chez Prema en F2. Donc okay. Il a choisi de ne pas faire la F3 internationale, donc le championnat de support qu'il y a dans les Grands Prix de Formule 1, dans les week-ends de Formule 1. C'est un choix qui est extrêmement fort pour ne pas perdre de temps d'une certaine manière. Est-ce que ça va payer ce choix ? Du moins, le début de saison d'Antonelli n'est pas si exceptionnel que ça, mais ça va s'arranger, ça c'est sûr et certain. Mais Mercedes a tout de même extrêmement confiance en lui par rapport à son talent, par rapport à son coup de volant qui est absolument exceptionnel. Tous ceux qui ont vu piloter Antonelli lorsqu'il avait 15, 14, 13 ans, tout le monde a dit c'est exceptionnel le talent qu'il a. Aujourd'hui, Antonelli est en F2, Mercedes a confiance en lui et Mercedes est même prête à réaliser des essais privés justement prochainement à Imola dans la W13. Alors je réinsiste aussi sur le point, la terrible W13, donc bon courage à Antonelli pour piloter cette Mercedes de 2022. Il va en avoir des cauchemars, mais du moins ce sera sa première, je crois, expérience en Formule 1, si je ne me trompe pas, à l'âge de 17 ans. Donc de ce point de vue là oui, quand tu fais piloter un gars qui a 17 ans en essai privé, parce qu'il faut rappeler que normalement, il y a la loi Verstappen qui est rentrée depuis que Max Verstappen est venu en Formule 1, c'est-à-dire qu'en week-end de Grand Prix de F1, il n'y a plus le droit maintenant de faire piloter un pilote qui a moins de 18 ans. C'est pour ça que justement, là, Mercedes décide de le faire en essai privé. Donc, voilà, quand on donne justement l'avantage, quand on donne justement l'opportunité à un pilote, un tout jeune pilote de 17 ans, de piloter une Formule 1. Et quand c'est soutenu par Mercedes et non pas par soutenu par d'autres gérants et surtout par des pilotes qui sont soutenus par des grands émissaires ou des grands ou par des grandes fortunes. Par exemple, Mazepin avait piloté pour Mercedes en essai, mais il roulait un million la journée, par exemple. Hein.
Non, mais là on voit que c'est
Antonelli, c'est un énorme crack générationnel et Mercedes a extrêmement confiance en lui. J'ai juste une petite peur, c'est qu'on aille un peu trop vite en besogne avec lui, surtout
pour le griller.
Voilà, le griller. Et c'est pour ça que Toto Wolff l'a expliqué justement dans une interview à Fox Sports Australia. Comme quoi, il voulait quand même prendre son temps avec Kimi Andrea Antonelli, ne pas non plus le jeter dans la gueule du loup, ne pas le noyer dans toute cette histoire-là. Donc, à voir comment les choses vont aller par rapport à Antonelli, mais ce qui est sûr et certain, c'est que lui, l'objectif, c'est la Formule 1 d'ici les deux prochaines années.
Bah parfait. Tu nous as bien présenté ce futur crack là.
Après, il y a un truc aussi, sans doute, Toto Wolff et puis l'ensemble du paddock. Je pense qu'il y a un petit traumatisme Piastri par rapport à ce qui s'est passé chez Alpine en se disant, bon, quand on a un talent qui est décrit comme
faut
un crack générationnel, déjà, il faut le verrouiller sur le plan contractuel, mais surtout, il faut le mettre dans une voiture. Bon, généralement, c'est lié, mais il faut le mettre dans une voiture de Formule 1. Et du coup, ouais, effectivement, je pense que Toto Wolff a un peu peur qu'il se passe quelque chose dans le genre. Donc c'est pour ça, moi je le vois bien chez Williams assez rapidement. Mais bon, pour combien de temps? C'est un peu la question. Russell, pareil, il était resté peut-être une année de trop.
Et il voulait partir. Il avait cherché à partir de Williams, d'ailleurs, George Russell, dans sa dernière année de contrat. Pour ajouter quelque chose par rapport à justement Kimi Andrea Antonelli, il faut savoir que Lewis Hamilton, Mercedes ne lui a pas proposé un contrat plus long parce que justement, il y avait Kimi Andrea Antonelli qui était juste derrière. Donc c'est un signe fort. C'est ce quand même assez fou de se dire.
Après,
c'est Toto Wolff qui l'a révélé cette situation. Donc et c'est là je me dis, ah oui, donc s'ils font ça à Lewis Hamilton, je comprends mieux le départ de Lewis Hamilton déjà pour le désaveu de confiance, on va dire ça ainsi, par rapport au septuple champion du monde. Mais ça prouve aussi que réellement Kimi Andrea Antonelli, l'objectif,
Alex,
c'est de mettre dans les
Toto temps. Il a dit ça une fois qu'Hamilton avait annoncé son départ.
Voilà, c'est ça.
Oui, aussi sûr.
Apprendre avec des pincettes malgré tout.
Bien sûr. Les gars, avant de partir sur vos grilles 2025, là, il y a quand même un autre pilote en fait qui génère plein de rumeurs. On sait d'ailleurs même pas s'il va continuer à piloter en Formule 1, c'est Fernando Alonso sur son Aston Martin, qu'on annonce de plus en plus chez Red Bull là, avec les rumeurs Verstappen chez Mercedes. Romain, Alonso, déjà, il s'est pas trop positionné. On sait pas ce qu'il fait, mais bon, j'imagine que quand t'es Alonso, que ça fait aussi longtemps que t'es dans le paddock, quand t'as Mercedes qui te drague, quand t'as surtout Red Bull là, qui te fait les yeux doux, ce sera un petit peu ballot d'arrêter maintenant, quoi.
Bah, je pense que la situation, elle est claire. Alonso, je crois que chez lui, il doit rêver Red Bull. Si Max Verstappen part de l'écurie phare de cette saison, ou même des saisons précédentes, Fernando Alonso voudra prendre la place. Et ça sera là le moment de voir si l'Espagnol aura la capacité de enfin montrer ce qui vaut depuis ces titres qui datent maintenant de presque 20 ans.
Et si Verstappen reste, juste, c'est impossible de le voir avec Max à la place de Perez.
Bah, c'est possible de voir les deux en même temps. Les deux s'entendent bien. Après, est-ce que Alonso sera capable de prendre le leadership à Verstappen? Possiblement, ça créera quelques tensions, déjà qu'il y a quand même pas mal de tensions au sein de l'écurie. Si on ajoute à ça deux pilotes qui sont un peu bornés sur les bords, ça va être compliqué.
Ouais, c'est de gros caractères.
Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un truc où Christian Horner, il pourrait se dire, bon, alors déjà, il faudrait que sa prise de pouvoir soit un peu confirmée là dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Mais est-ce qu'il y a pas, peut-être que Horner va vouloir verrouiller un contrat pour Alonso, histoire de se dire, bon, au moins, si jamais Verstappen s'en va et qu'il claque la porte, au moins j'ai un pilote de top niveau qui pourra piloter, conduire la voiture
même
de 2025,
même moi,
qui va être globalement la même que 2024.
Je vais plus loin, Julien. Je vais même plus loin, les gars. Je me dis, Christian Horner Ego surdimensionné, oui. Un peu boulard. Pas forcément bon mec, d'après tous les échos qu'on peut parfois avoir. Le mec, quand même, avec ce qui s'est passé avec Verstappen pendant cette intersaison et là, avec le papa Verstappen, tu peux te dire un peu qu'il en a gros sur la patate. Est-ce que tu vas pas faire signer un Fernando Alonso pour lui mettre un petit peu dans les pattes de Verstappen et lui dire, bon alors là maintenant mon gars, c'est qui le patron, ok, tu gagnes des courses, mais voilà, on peut aussi un peu t'enquiquiner, donc tu vois, est-ce que ça aussi c'est pas une possibilité connaissant le caractère de Horner?
Ouais, pour moi c'est pas exclu, hein. il pourrait se dire, ouais, regarde le clan Verstappen là, vous m'embêtez là, j'en ai marre, je peux vous montrer qu'en fait il y a un autre pilote qui peut gagner avec cette voiture et voilà.
Ah, de toute façon c'est l'objectif, hein, de Christian, ouais, Horner, hein. De tout ce qui est en train de sortir justement, c'est l'objectif de montrer que celui qui a permis de justement faire gagner Red Bull, et c'est un fait même, parce que Horner, pas malgré les polémiques et tout ce qui se passe autour de lui, il a créé Red Bull avec Matej Hitz, ouais, en 2005, et aujourd'hui on en est à plusieurs titres mondiaux avec Sébastien Vettel, mais également aussi bien sûr avec Max Verstappen. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que Alonso et Red Bull, c'est l'impression que c'est la relation qui doit absolument, oui, se faire depuis un nombre d'années, ouais, depuis ça, là, ouais. Et 2009,
c'est
2013,
c'est quand t'es amoureux de ta meilleure copine et que ça se fait jamais, tu voilà, sais, mais tu sais qu'il y a un truc bizarre, quoi.
Voilà, mais ça fait depuis 2009 il y a une première offre, 2013 il y a une autre offre, et une autre offre aussi également, je crois, aux alentours des années de fin, après 2015 justement. Donc là il y a enfin cette opportunité qui peut se réaliser. Il y a personne qui peut dire à Horner maintenant, aujourd'hui, bon, tu peux pas prendre Fernando Alonso, parce qu'à l'époque c'était le clan Verstappen qui avait fait savoir qu'ils étaient pas justement contents de voir Alonso potentiellement venir du côté de chez Red Bull. Là aujourd'hui il y a personne qui peut l'embêter, Christian Horner. Et aujourd'hui aussi également, la dernière information par rapport à Alonso du côté de chez Red Bull, c'est qu'en effet Fernando Alonso pousse très fort actuellement de son côté pour voir quelles opportunités se présentent à lui chez Red Bull avant de prendre une décision sur son avenir en Formule 1. Ça fait un petit peu comme Max Verstappen qui justement essaye de voir aussi est-ce que du côté de la prochaine réglementation et des prochaines années, la performance peut toujours rester au rendez-vous. Du côté de chez Fernando Alonso, il y a aussi cette même situation, sachant que Alonso aussi dans une écurie qui est sur une pente ascendante en termes justement de construction par rapport au projet Aston Martin. Mais peut-être que c'est un aveu aussi pour révéler qu'il veut gagner absolument tout de suite. Mais par contre, s'il vient chez Red Bull l'année prochaine, c'est pour une seule année, hein. Parce que je ne vois pas rester en 2026 ou serait dans un projet, parce qu'en 2026, une nouvelle réglementation, Red Bull, à mon sens, au vu de ce qu'on entend, ne sera plus leader réellement de la Formule 1, assurément. Donc 2025 Alonso, ça serait une année, un one shot pour tenter le titre, et après bye bye.
Et puis d'un autre côté, Alonso, je pense que les affaires qu'il y a à Red Bull, je pense qu'à son âge, il s'en moque un peu. Ce qu'il veut, c'est le titre, le titre avant tout. Et puis on sait que surtout Alonso, mis à part Hamilton dans le paddock et Verstappen, est le seul pilote qui est capable de donner le maximum du potentiel d'une monoplace tout au long de la saison. Il n'y a pas d'autre pilote qui peut faire ça, et Alonso serait le profil recherché pour cette dernière année avant les changements.
Franchement, en fait, c'est passionnant. Là, on en a une heure de podcast, on pourrait en faire encore
déjà
une en plus.
Voyons.
Ouais, ce mercato est fou.
C'est totalement dingue. Les gars, on va partir quand même sur vos grilles un petit peu 2025. Ah. Parce que là, ça y est, on a ratissé un petit peu, en tout cas, les grosses infos, les gros prospects de cette silly season, les pilotes qui attirent le plus les top écuries. Mais maintenant, ça va beaucoup bouger derrière, on l'a dit, puisque je vous le rappelle, ils sont 12 en fin de contrat. Je vais commencer avec la grille d'Alex Caldi. Vous n'avez pas les mêmes grilles déjà. Alors moi j'ai eu que deux grilles, hein, celle d'Alex et celle de Julien Absalon. J'ai pas encore celle de Romain. Romain, tu vas m'improviser tout ça. Tu vas essayer de te positionner aussi par rapport au gars. Alex,
c'est la liste mystère.
Ouais, c'est un petit peu la liste mystère, c'est ça. Alex, vas-y, donne-nous un petit peu ta grille 2025.
Alors, il faut savoir que dans ma grille, il y a donc deux line-up de pilotes qui restent inchangés. Alors donc, il n'y en a qu'une seule, je crois. Il y a McLaren, c'est tout. Donc Piastri et Norris.
Ouais. Oui.
Puisque Ferrari.
Bon, t'as Hamilton Leclerc.
Leclerc, c'est vrai par rapport à ce qu'on sait. Russell Verstappen donc du côté de chez Mercedes, parce que je pense tout de même que je le vois partir de toute façon, et par rapport à tout ce qu'on entend, je vois pas comment il peut rester, très sincèrement. Chez Red Bull, Alonso Pérez. Alonso, pour moi,
tu vois Pérez rester.
Je vois Pérez rester. Aston Martin, Stroll et Esteban Ocon. parce que je pense que du côté de chez Esteban Ocon, il faut partir d'Alpine au bout d'un moment. Il faut aussi quitter un peu son noyau et sa maison pour pouvoir voir un peu d'autres horizons. Et Aston Martin pourrait être un excellent projet pour Esteban Ocon, qui a une âme de leader, comme j'avais pu en parler justement avant autour du cas Mercedes. McLaren, Piastri, Norris du coup. Alpine, Pierre Gasly aux côtés de Victor Martins.
T'étais obligé.
Oui, j'étais obligé. Non mais
rappelle-nous Alex quand même que c'est bon voilà avec Off Track, le média que t'as créé. Voilà, vous suivez Victor avec ses, il est dans le giron Alpine aussi. Hein.
Oui, giron Alpine aussi. Et il y a
c'est pas impossible.
Hein. C'est pas impossible. En fait, il y a cette opportunité qui peut se présenter dans le sens où. Bah, quand tu regardes si Ocon part ou si Gasly part, justement, par rapport à ce qui peut se passer, il n'y a pas énormément de pilotes qui peuvent peut-être vouloir ou prétendre au baquet Alpine, mis à part Victor Martins, qui est dans une excellente position. Il a justement une fenêtre qui peut s'ouvrir.
Carrément.
Chez Williams, Albon et Antonelli. Je ne pense pas qu'Albon quittera Williams à l'issue de cette saison, mais parce que... Il y avait l'aspect où il était pressenti pour aller du côté de chez Ferrari, mais c'est Hamilton qui a pris cette place. Et Albon peut attendre pour peut-être voir en 2026, peut-être, l'opportunité de revenir du côté de chez Red Bull. Et donc, aux côtés Williams avec Antonelli à ses côtés pour sa première saison en Formule 1. Du côté de chez Haas, Oliver Berman, donc,
oui.
Et Kevin Magnussen. Magnussen, je mets un gros point d'interrogation parce que vraiment, sur un malentendu, il peut rester. Mais ça fait partie des pilotes en danger réellement à l'issue de cette saison. Chez Sauber, donc, Carlos Sainz et Hülkenberg. C'est un line-up qui est extrêmement pressenti, hein, on va pas se le cacher. Futur Audi, donc Sauber en 2025, mais Audi en 2026. Leur line-up, ils veulent un pilote d'expérience, un pilote très fort, un pilote comme tête de gondole, et un pilote allemand. Et Hülkenberg, depuis l'année dernière, est en forte discussion avec le groupe Audi, enfin le groupe Volkswagen, mais surtout Audi. Et Sainz aussi, et ils ont Sainz a jusqu'à mi-avril pour prendre sa décision s'il veut rejoindre Audi ou non. Et enfin, la dernière écurie, Visa Cash App, Cofidis, machin là. Et bah, j'ai mis Lawson et Tsunoda. Parce que Tsunoda, il ne bougera pas tant qu'il y a Honda qui propulse également, comment s'appelle-t-il, l'univers Red Bull. Et Lawson, parce que je pense que Ricardo, s'il ne s'améliore pas, et on parle à l'instant T, ça va être compliqué pour rester du côté de chez...
Juste Liam Lawson, ouais. Rapidement, là, Alex, présente-nous un petit peu ce pilote néo-zélandais, je crois.
Bien sûr, néo-zélandais, très jeune pilote du giron Red Bull. Je ne m'attendais pas à énormément de choses de sa part en Formule 1 lorsqu'il a remplacé Ricardo, lorsqu'il s'était blessé Ricardo à la main lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il l'a remplacé au pied levé. Il a été hyper impressionnant. Il a été excellent. Il a dépassé les attentes. C'est le seul pilote d'ailleurs au passage qui a dépassé Max Verstappen l'an dernier. On rappelle au Grand Prix des Pays-Bas, personne d'autre l'avait fait, lui l'a fait. Mais c'est une stat à mettre à son égard. Mais dans la globalité, c'est un pilote qui est vraiment intéressant. Et Helmut Marko, qui l'apprécie beaucoup, veut absolument le mettre, que ce soit l'année prochaine ou dans deux ans, dans les deux prochaines années, en Formule 1. Là, il y a l'opportunité, sachant que Ricardo et Helmut Marko ne sont pas très 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 copains. C'est surtout Ricardo qui est proche de Christian Horner, attention. Et donc de ce fait là, Lawson a une opportunité. Et Tsunoda, pour rappel, Tsunoda japonais, lié à Honda, 2026, il y a Aston Martin qui sera lié avec Honda, et il y a cette opportunité pour Tsunoda, qui est toujours très proche d'Honda, d'aller du côté de Aston Martin en 2026. Donc ce serait sa dernière année.
Elle me plaît bien ta grille 2025, mon Alex. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Julien, ta grille 2025. Alors déjà, dans les top équipes, vous n'avez pas exactement les mêmes.
Ah mais il y a quand même pas mal de points communs.
Hein. Non, franchement, ouais, franchement, vous êtes bons.
Non, mais après, sachant que voilà, c'est une grille de rêve et aussi, bon, c'est un mix de rêve et quand même ce qui est possible. Moi, par exemple, chez Red Bull, je me dis Tsunoda avec Alonso, moi je trouve que c'est possible. Genre, en tout cas, moi je vois Alonso sûr et certain. Et je me dis Tsunoda, vu les performances vraiment excellentes chez RB, ça peut être l'occasion de le faire monter, de verrouiller aussi son avenir. Et puis comme ça, si jamais Alonso c'est un one-shot et qu'il part au bout d'un an, eh ben, y a quand même une valeur sûre. Qui est Tsunoda, qui a largement progressé, il met une claque à Ricardo, hein, c'est même assez gênant. Donc ça j'y crois. Mercedes, Verstappen, Russell, je pense que c'est à la fois possible et c'est ce que j'ai envie de voir. En fait j'ai envie de voir Verstappen bouger, donc voilà.
Ouais, voilà.
Bon, Ferrari, Leclerc, Hamilton, McLaren, Norris, Piastri, pareil, je vois pas de changement. Je vois aussi Esteban Ocon chez Aston Martin.
Vous avez les mêmes pilotes chez Aston.
Avec Stroll. Je me dis que ce serait une bonne association.
Sachant que Lance Stroll et Esteban Ocon aussi sont très amis.
Non, mais c'est ça. En plus, je l'ai pris en compte parce que, bon, étant donné qu'Ocon n'a pas beaucoup d'amis dans ce paddock, donc c'est quand même intéressant. Chez Alpine, je vois Gasly rester, en fait, un peu malgré lui pour le coup, mais bon, voilà. Alors, qui pourrait aller avec lui ? Alors là, je me suis un peu cassé la tête. Je me dis Duan, je sais pas comment.
Ah non, pas lui. Duan.
Ouh. Ah non. Non, mais là, j'avoue, c'est un peu par défaut. Je me suis dit, bon, il y a cette option, voir Mick Schumacher qui fait l'endurance avec.
Pourquoi
Alpine.
Pas lui ? Pourquoi de.
Je trouve que Jack Doohan en F2 et dans les formules de promotion n'a pas montré énormément de choses lui prévalant justement le titre de candidat à un bac alpine.
Surcoté, le problème, quoi. C'est que le bac alpine, là, est-ce qu'il... Non, pas qu'il... c'est pas qu'il vaut pas grand-chose, mais bon,
oui,
on parle
oui.
de 2025, quoi.
Mais quand tu es alpine et quand tu vois, par exemple, ce que produit Victor Martins, qui est l'année dernière meilleur rookie, qui fait une meilleure saison, d'ailleurs, dans la globalité que Jack Doohan. L'année dernière, il finit meilleur rookie de la saison Victor Martins. Il permet aussi à Hard Grand Prix d'aller chercher le titre constructeur.
Ouais, c'est vrai.
Il y a tout, en fait, qui peut montrer que Victor Martins, ça peut être... Est peut-être plus construit justement en tant que pilote pour prétendre et à l'adversité justement que peut affronter un pilote de Formule 1 du côté de chez Alpine.
Mais il y aurait un choix stratégique. Hein. Est-ce que tu envoies Victor Martins dans cette bagarre?
Ah mais quoi qu'il arrive, surtout
après, les jeunes diront toujours, moi je prends n'importe quel, enfin quasi, je prends un volant de F1, c'est quand même.
Logan Sargeant, il a signé par exemple son contrat chez Williams, c'est yeux fermés, hein, vu ce qu'on lui a fait.
Visiblement, ouais, il a pas trop regardé les clauses. Il a pas regardé. Petite
bon,
clause.
Chez Williams.
Mick Schumacher, tu disais, ouais.
Ouais, je me dis Mick Schumacher, voilà. En vrai, bon, c'est difficile, mais bon, après tout, il est sous contrat Alpine, donc pourquoi pas, après tout. Et puis, ça fait un petit coup marketing, encore une fois. Voilà. Ouais. Williams, Albon, Antonelli. Voilà, je pense que c'est ça tombe sous le sens. RB, Racing Bull, Lawson, pareil, je vois bien. Et là, j'ai mis, pourquoi pas, Adjar, en vrai, pour faire un truc très jeune, effectivement, pour, en fait, redonner vraiment ce côté. Parce que là, ils se sont un peu perdus en mettant Ricardo, qui est vieux, expérimenté. Non, il faut refaire de RB cette écurie qui alimente l'Empire Red Bull. Voilà, c'est la voie de promotion pour ensuite monter, pourquoi pas. Et donc, pourquoi mettre Isaac Adjar, le Français qui vient de gagner une course, qui aurait pu en gagner deux même, mais qui vient de faire de bons résultats en F2. bon, qui aurait pu, hein, c'est selon. Ouais. Chez Sauber, qui donc deviendra Audi en 2026, je vois Carlos Sainz en fait y aller parce que Verstappen ira chez Mercedes, donc Carlos Sainz chez Sauber. Et là, bon, je trouve que c'est un peu interchangeable. C'est vrai que Hülkenberg est un peu le petit favori pour y aller. Mais bon, en tout cas, moi, dans ma grille de rêve, j'avoue que ce soit Bottas, Hülkenberg ou Magnussen, franchement, c'est un peu peu importe.
Ouais.
Honnêtement, c'est qu'ils sont un peu tous interchangeables, je trouve. Et pour finir, chez Haas, Sergio Perez et avec Biermann. Ouais. Ça me paraît le...
C'est bien, hein.
Pour moi, ouais, c'est... Cette line-up, ça me paraît être un plat du pied. Mais,
plat du pied sécurité. Voilà, non, c'est exactement ça. Romain, est-ce que toi, tu as des petites envies un peu particulières par rapport au gars? Vas-y.
Alors, chez Red Bull, on a donc Fernando Alonso.
Il a commencé comme Didier Deschamps qui allait faire une...
c'est la liste, c'est la liste de Didier. Voilà. Alors, gardien, Hugo, Lloris.
Allez, fichier. Non, chez Red Bull, donc je mets Fernando Alonso avec Liam Lawson. Je pense que...
Chez Red Bull.
Il pourrait tenter le coup à le former directement, vu les résultats qu'il a fait, mais le faire
monter
directement...
T'es là, mon Romain, t'es là pour venir perturber un petit peu l'équipe du paddock RMC.
Bien sûr. Non, franchement, je vois Lawson directement. Bon, il n'aura pas le leadership parce que ça sera Alonso, mais je pense qu'il pourrait apprendre beaucoup avec Alonso. Et une saison de transition comme ça, avec la nouvelle réglementation derrière, ça pourrait être pas mal de voir Lawson en deuxième pilote Red Bull. Chez Mercedes, donc Sainz et Russell. Ferrari, bon, Hamilton et Leclerc, ça on le sait. Comme McLaren avec Norris et Piastri.
Attends, mais tu m'as pas mis mon Max, donc tu le mets chez Aston Martin, toi, Verstappen.
Ah bah oui.
Ah oui, non mais...
Verstappen chez Aston Martin, je pense que... même si Verstappen n'est pas forcément chaud dès le départ d'aller chez Aston Martin, je pense que le papa Stroll va vouloir sortir le carnet de chèques et faire signer le grand champion dans son écurie. Et je pense que ça serait le moment de voir son fils enfin quitter l'écurie. Donc avec Verstappen chez Aston, je mettrais Pierre Gasly pour le faire changer d'écurie et revoir un peu la doublette Verstappen-Gasly, sachant que Gasly, voilà, je pense que ça serait une bonne écurie. Je ne sais pas s'il peut faire plus et aller chercher quelque chose en plus, sachant qu'en plus, s'il y a Verstappen à côté, ça risque d'être compliqué. Mais dans tous les cas, il faut qu'il parte de chez Alpine. Chez Alpine, je mettrais Martins avec Albon. Albon, ça pourrait être un bon projet pour lui si il n'a pas un tracteur. Ça va être compliqué.
Mais pour, je me dis que ça 2025, va être...
Je me dis que voir Albon au-dessus, enfin dans les écuries au-dessus, ça me semble compliqué en fait. C'est plus un choix par défaut. Ouais. Et derrière chez Haas, je mettrais Perez. Je pense que Perez n'a pas envie de se prendre la tête pour ces dernières saisons si il en fait. Je pense que chez Haas ça pourrait être pas mal pour former un petit Oliver Biermann à ses côtés.
Ouais. T'es enfin d'accord avec les gars. Je crois que c'est le seul seul line-up que t'as en commun avec les mecs.
Bah en même temps c'est le petit frère de, on va dire, de, ou la petite sœur comme on veut, hein, de Ferrari. Donc ça pourrait être pas mal de voir Biermann se former aux côtés de Perez. Et de l'autre côté, de la maison mère Mercedes, donc Williams, Antonelli avec Mick Schumacher. Je pense que ça pourrait être sympa, le duo. Les deux pourraient bien s'entendre. Mick Schumacher a une occasion qui s'est mal terminée, mais il pourrait rebondir, sachant que voilà, il était dans l'écurie Mercedes en troisième pilote. Je pense qu'il a dû voir un peu du pays.
Oh, mais il est toujours d'ailleurs.
Et se former un petit peu auprès des grands, notamment Lewis. Et Antonelli, ça pourrait lui faire une très bonne expérience comme première saison chez Williams. Et pourquoi pas monter chez Mercedes si tout se passe bien et si Sainz ne fait qu'une saison dans l'écurie phare.
Ouais.
Chez Stack,
quoi, RB, ouais.
Ouais, Stack et RB, Stack, Bottas et Stroll. Bottas, je le vois pas changer. Je pense qu'il est bien.
Il est à retraite. Hein.
Il est bien à faire des TikTok du côté de Stack. Et puis bon, Stroll, je suis pas sûr qu'il mérite plus que Stack, malheureusement. Et Racing Bulls, je mettrai Tsunoda pour pas changer. Et le petit Hadjar.
Oh, chez Racing Bulls.
Ouais.
D'accord. Ok. Ouais. Toi, t'as envie que la grille explose. Je sens mon
envie
qu'il y ait tout qui pète. Mais
j'ai envie que ça change.
Après, c'est
surtout
de rêve.
Qu'en fait, je trouve que cette nouvelle réglementation va vraiment marquer la transition entre les anciens pilotes et les nouveaux pilotes. Et pourquoi pas ne pas commencer à les former à la dernière saison avant cette nouvelle réglementation pour justement qu'ils se sentent. Qui voit comment ils se sentent dans une F1 pour après être
ouais,
bon
dès le départ.
Ouais,
prendre un peu la température, tu prends la température, tu te formes un peu, tu fais tes 24 courses et après tu te lances dans le grand bain
c'est
pour
ça.
2026.
Exactement.
Bon les gars, merci beaucoup. On s'est régalé dans cet épisode du paddock RMC. On a totalement laminer le chrono. Normalement, on est censé faire des podcasts de 40 minutes, on en est à 1h30.
Sur le problème des sujets mercato.
Non mais le truc, c'est que je pense qu'on va en reparler tout au long de cette saison parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et là, on n'est pas rentré dans les détails un petit peu du fond de grille, mais il y a des tas de pilotes. On s'est pas penché notamment sur l'avenir particulier de nos deux pilotes français, peu Ocon, Gasly, mais on n'est pas vraiment rentré dans les détails. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez ce format de podcast, un petit peu plus magazine, un petit peu plus débat, où on donne nos avis, voilà, nos grilles de rêve, n'hésitez pas à commenter tout ça, à nous envoyer des messages, que ce soit à Alex, à Julien, à Romain, à Jean-Luc Roy aussi, il lit les messages, même s'il n'est pas présent sur le podcast, à moi-même. N'hésitez pas surtout à nous noter, les 5 petites étoiles sur les plateformes. On se retrouve lundi prochain, bien évidemment, pour débriefer le Grand Prix du Japon à Suzuka. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast. À tous vos amis qui sont fans de sport auto, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci les gars, et bye bye.
Salut, ciao.
Bye bye.
Le paddock RMC.